simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
La mort du jeune Naël le 27 juin 2023 dernier des suites d'un contrôle routier. Des révoltes ont éclaté dans l'ensemble de la France. Face à la colère qui est exprimée dans la rue, l'État n'a qu'une seule réponse, la répression. Ainsi, depuis maintenant une semaine, de nombreuses comparutions immédiates avec des peines d'emprisonnement se déroulent dans tous les tribunaux de France. Face à cette réponse répressive d'un État sourd, des collectifs ont décidé de s'organiser afin d'exprimer leur solidarité en allant aux comparutions immédiates afin de pouvoir témoigner de l'action de la justice quant à cette jeunesse, mais aussi afin de pouvoir diffuser de nombreux outils pour faire face à cette répression. Dans cette émission, nous vous diffuserons donc un interview qui a été réalisé avec une des personnes qui participent de cet élan de solidarité. Interview que nous ponctuerons de diverses prises de parole de familles de victimes des violences policières qui, elles, ont été réalisées lors de la marche contre les violences et brutalités policières qui avait lieu le 18 mars 2023 dernier à Paris. Une manière pour nous de mettre en avant que la véritable cause de toutes ces violences, c'est avant toute chose la violence de l'État.
Je vous en prie, assez joué. Vous n'en avez pas assez de vos épopées crapuleuses.
Aujourd'hui, nous sommes le 18 mars 2023 et nous nous réunissons pour dire stop à ces violences d'État, stop à ce racisme systémique. Nous allons passer la parole aujourd'hui à Fatou Dieng. Fatou Dieng, dont le frère a été tué par la police et qui va nous parler du réseau d'entraide, le réseau d'entraide qui est porteur de cette marche. Merci à tous.
Merci à toutes les personnes d'être là aujourd'hui.
Ce samedi 18 mars 2023, le réseau d'entraide Vérité et Justice a appelé à marcher toutes et tous ensemble, dans toutes les villes et dans tous les pays. Ici, sur cette place et partout ailleurs, nous marchons et nous marcherons pour honorer les morts et les mortes, les blessés et protéger les vivants et les vivantes.
Cela fait 592 jours, soit 1 an, 7 mois et 14 jours que mon fils El Khafaoui Souheil a été tué d'une balle en plein cœur par un policier stagiaire lors d'un banal contrôle routier. C'est 592 jours de tristesse, de douleur, de combat. C'est 592 jours d'apprentissage des rouages judiciaires. C'est 592 jours de sidération quant aux magouilles de l'IGPN et du parquet. Nous sommes réunis aujourd'hui pour manifester encore une fois contre les violences d'État. Nous voulons dénoncer toutes ces enquêtes truquées par l'IGPN, tous ces acquittements prononcés par les juges. Combien de mensonges allons-nous encore supporter? Combien de promotions de policiers coupables de violences illégitimes allons-nous encore supporter? Combien de morts allons-nous encore supporter? Le frémissement médiatique fin 2022 sur la légalité de ces tirs et sur la loi 435-1 a rapidement été balayé par une actualité politique nationale et internationale chargée. Notre devoir est de rappeler chaque jour à tous que cette loi, portée par les syndicats de police, promulguée par les socialistes, était soi-disant destinée à lutter contre le terrorisme. Pourtant, elle n'a jamais été invoquée pour des motifs terroristes. C'est devenu le sésame pour justifier tous les débordements policiers, pour justifier toutes les mutilations, tous les meurtres commis par des policiers. Chaque fois qu'un policier outrepasse ses droits, perd ses nerfs ou bien assouvit ses pulsions violentes ou racistes, la machine d'État se met en marche pour le protéger. Une machine rodée, implacable, qui n'hésite pas à truquer, mentir, salir, écraser pour déformer les faits afin de les faire entrer dans la case L435-1. Savez-vous qu'aujourd'hui, les policiers peuvent mentir en enquête préliminaire sans courir le risque de la moindre sanction? Savez-vous qu'aujourd'hui, l'IGPN peut torpiller des enquêtes avec la bénédiction des procureurs? Savez-vous qu'aujourd'hui, le parquet fait tout ce qu'il peut pour faire traîner en longueur les procédures? La liste des infractions, des abus de pouvoir, des petits arrangements est trop longue pour que je les détaille ici. Malgré tous ces obstacles, je n'abdiquerai jamais. Je me battrai chaque jour pour faire condamner Romain de Vincine, le policier stagiaire qui a tué mon fils et qui n'a pas hésité il y a quelques semaines à me dire, en me regardant droit dans les yeux, que pour lui, la vie est belle. Je me battrai chaque jour pour faire abroger cette loi meurtrière qu'est la 435-1. Je sais que la tâche est ardue, qu'il faudra franchir des montagnes pour réussir. Mais je suis accompagné par des hommes et des femmes brillantes, de toutes origines, de toutes conditions sociales, qui, comme moi, aspirent à une société plus juste. Monsieur Macron, vous aurez beau travestir la police, l'utiliser pour continuer à garder vos privilèges, vous et vos amis bourgeois, nous ne lâcherons rien. Nous l'avons vu encore une fois avec les retraites, vous préférez écraser encore plus les pauvres, les travailleurs, mais on ne vous laissera pas faire. Chaque acte violent des policiers nous renforce dans la confirmation de votre illégitimité comme président de la France. Vous déshonorez notre beau pays. Messieurs les policiers, c'est à vous que je m'adresse maintenant. J'entends dire ici et là que la majorité d'entre vous sont des gens honorables et qu'il n'y a que quelques brebis galeuses. Si tel est le cas, où êtes-vous? On ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Vous étiez les premiers à dire que moi, en tant que musulman, j'aurais dû manifester contre les terroristes islamistes. Ce que j'ai fait. Où étiez-vous à chaque fois qu'un policier a tué ou mutilé un citoyen? Où étiez-vous quand les syndicats ont réussi à faire réintégrer dans la police des policiers condamnés et radiés? Où êtes-vous lorsque vos collègues, vos supérieurs nous traitent de bamboula, de bougnoule? Où êtes-vous lorsque vos collègues portent des signes racistes sur leurs uniformes? Où êtes-vous lorsque l'un d'entre vous ose dénoncer vos pratiques et se fait démolir par votre système quasi-mafieux? Je ne crois pas à cette théorie des brebis galeuses. Je crois que la police est devenue le bras armé et aveugle, collabo, d'un État hyper-capitaliste, anti-écologie, raciste et décomplexé, capable du pire pour perpétuer les privilèges des nantis.
Le 27 juin dernier, c'est Naël qui était assassiné lors d'un contrôle routier à Nanterre. Et ça a mis en avant un ensemble de violences d'État qui existent, qui sont récurrentes depuis un certain nombre d'années et face auxquelles il y a des révoltes voilà, qui ont éclaté évidemment en région Île-de-France et principalement en banlieue, mais qui en fait se sont aussi déroulées dans tout un tas d'autres endroits de la France. Depuis le 27, malheureusement, ce qu'on entend principalement dans les médias, c'est un discours ultra répressif et une mise en avant de l'efficacité de l'État à travers, d'ailleurs, ses outils répressifs, que ce soit la police et ses armes ou bien, finalement, l'outil judiciaire. Nous, là, ce dont on avait envie de parler, en réalité, c'était de la solidarité qui s'organise autour de ces révoltes, parce que s'il y a toute une partie du discours, des discours qu'on entend, qui ont l'air de ne pas reconnaître la colère qui s'exprime et les raisons de cette colère, nous, elle nous semble assez évidente. Résultat, on voulait voilà, mettre en avant une de ces initiatives, et une de ces initiatives, évidemment, c'est aussi de s'organiser sur cette question de la répression. Et vous, voilà, vous êtes un certain nombre à avoir répondu à un appel qui a été lancé sur la question judiciaire. Déjà, est-ce qu'on peut voilà, revenir sur cette initiative?
Bah, ce qu'on a vu, et c'est ce que tu viens de dire très bien, quoi, c'est que après le côté spectaculaire et hyper visible des révoltes dans la rue, quoi, il se passe toujours ensuite une répression qui l'est beaucoup moins, quoi, qui isole beaucoup plus les gens, qui les met face, qui, disons que la violence justement des tribunaux et la violence judiciaire vient prendre le relais de la violence policière dans les rues, quoi. Et il y avait un vrai enjeu face à l'éclatement qui s'était produit dans tout un tas d'endroits très très différents et donc qui concernait aussi plein de tribunaux différents, déjà de comprendre ce qui s'y passait, quoi. Et ce qu'on peut voir, c'est que partout en Île-de-France, hein, y a des collectifs qui sont créés. Y a la Legal Team qui existait évidemment avec les mouvements sociaux, qui a essayé de se réactiver. Y a une Legal Team antiraciste qui est en train de se monter avec des nouveaux pools d'avocats et en même temps des ancrages dans d'autres endroits d'Île-de-France. Et la question du coup s'est posée à Paris de savoir, simplement en fait, comment faire le travail matériel de on essaie de comprendre où il y a des comparutions immédiates, on se répartit, on y va, on fait des comptes rendus, avec l'enjeu aussi de pouvoir rentrer en contact quand on le juge nécessaire, quoi, avec des familles de prévenus qui se sentent, ou de prisonniers qui se sentent, qui ont l'air isolés, qui ont un commis d'office, qui n'ont pas l'air d'avoir vraiment les ressources. Et donc l'idée, c'est d'aller vraiment au contact des gens le plus avec le plus de prudence possible, quoi, parce qu'on sait que c'est aussi des moments extrêmement éprouvants, quoi, ces audiences de tribunaux. Et de laisser un contact, de dire qu'il y a des avocats qui sont compétents, de donner, si dans le cas, et c'est beaucoup le cas pour la situation actuelle, beaucoup de gens qui partent en prison, soit en prison ferme après une condamnation, soit sous mandat de dépôt dans le cadre de la préventive. Et donc il y a aussi un vrai enjeu à pouvoir donner des ressources sur très vite, quoi. Comment contacter la prison, quels vêtements est-ce qu'on peut donner aux prisonniers qui sont à l'intérieur, comment organiser des visites le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est des conseils très pratiques qu'on essaie de diffuser au maximum. Et puis quand c'est possible, de garder le contact pour aussi avoir un suivi plus long terme avec les familles, parce qu'on sait que c'est des choses qui, ensuite, la machine judiciaire qui prend du temps et qui broie bien lentement, quoi.
Qu'est-ce que c'est finalement une comparution immédiate? Pourquoi est-ce que c'est à cet endroit-là aussi qu'il faut être présent?
Les comparutions immédiates, en fait, c'est de la justice d'abattage pour la justice pénale, quoi. En gros, c'est pour, normalement, si je dis pas de bêtises, des délits qui sont réprimés de moins de 7 ans d'emprisonnement. Avant, c'était 5. On augmente toujours, en fait, Normalement, c'est considéré pour les délits les moins graves. Bon, on voit que c'est jusqu'à 7 ans de prison. En fait, à quoi ça sert une comparution immédiate? Ça sert à, juste après une interpellation, dans la foulée de la garde à vue, s'il y a une mise en examen, hop, on est envoyé directement au tribunal et on a quelques heures entre sa garde à vue et le passage devant le juge pour préparer une espèce de défense. Mais en fait, du coup, c'est toujours hyper compliqué. Mais là où ils sont gagnants, c'est-à-dire qu'on peut toujours refuser la comparution immédiate et demander un renvoi pour avoir le temps de préparer sa défense. Sauf que ça, c'est un jeu hyper dangereux, puisqu'en fonction de sa situation sociale, de son casier judiciaire, le risque qu'on prend en demandant un renvoi, c'est que le renvoi, on va préparer sa défense en prison, quoi. Et là, c'est ce qu'on a pu voir dans ce mouvement. Alors, il y a eu une circulaire hein, du Pont Moretti, du ministère de la Justice, qui a dit qu'il demandait, quand c'était possible et le plus possible, d'envoyer les gens quand ils demandaient des renvois en prison. Et on voit que le taux de préventive, même pour des gens qui avaient des casiers vierges, qui étaient scolarisés, qui avaient ce qu'on appelle des garanties de représentation, c'est-à-dire il faut prouver au juge, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut vous mettre en détention provisoire. En gros, s'il y a un risque de réitération de ce que vous avez fait, et comme vous êtes présumé innocent, c'est quand même bizarre un risque de réitération alors que vous êtes présumé innocent, ça peut être aussi la dangerosité vis-à-vis de la société, ou ça peut être le fait de ne pas être assez inséré et donc dans la société, et on considère que vous avez peu de garanties de vous présenter à votre procès. Et donc, dès que quelqu'un n'a pas d'emploi, est au RSA, n'a pas vraiment d'adresse, est en galère, est en squat, ou des personnes en situation irrégulière, là, c'est quasi systématiquement la prison en attente de son procès. Donc, on voit que cette question de la comparution immédiate, parfois stratégiquement, les gens préfèrent l'accepter, malgré le fait qu'on ne puisse pas préparer sa défense, juste pour avoir l'espoir de ne pas forcément finir en prison, quoi.
C'est une justice d'abattage qu'a à voir aussi un peu avec tout ce discours médiatique ambiant. C'est-à-dire qu'il y a une volonté aussi peut-être d'aller au plus vite pour montrer qu'on réagit.
Oui, exactement. Et c'est toujours, dans le cas des mouvements sociaux aussi, c'est toujours utilisé de cette manière-là, c'est-à-dire que ça doit être une réponse ferme de l'État et on en donne les preuves tout de suite, quoi. Alors après, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que, en fait, ça va se jouer vraiment à plusieurs bandes, cette histoire, parce qu'il y a les gens qui sont passés en comparution immédiate, on va en parler, il y a eu aussi beaucoup de renvois qui ont été faits, donc des nouvelles comparutions qui vont arriver tout au long de l'été. Et puis ce qu'on voit là depuis quelques temps, c'est des perquisitions directement chez les gens, suivies d'arrestations suite à l'exploitation des vidéosurveillances, polytechniques et scientifiques, les empreintes sur les vitres, sur les différents trucs. Et pour les éléments sans doute les plus graves ou qui demanderont des enquêtes plus longues, il va falloir s'attendre à des perquisitions sans doute durant la prochaine année, quoi. Et ça, c'est hyper compliqué parce que autant là, on sait comment s'organiser en allant un peu au hasard, mais dans les comparutions immédiates, évidemment, ça concerne jamais que les révoltes, mais il y a beaucoup d'affaires qui les concernent. Donc là, on sait qu'on va en parler, mais en fait, ça va être hyper compliqué si on n'a pas de contact un petit peu avec les familles, évidemment, avec les avocats, pour savoir comment organiser ce calendrier de la répression judiciaire qui va être, à mon avis, très, très, très violent, quoi.
Par rapport à l'outil judiciaire, on voit une véritable différence de traitement en ce qui va, pour ce qui va concerner justement les affaires de crimes racistes et sécuritaires perpétrés par la police, ou bien la manière dont là on va traiter les révoltes. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité à mettre en avant de cette différence de traitement, de sorte à révéler aussi la complicité de l'outil judiciaire dans la construction d'une impunité policière?
Là, c'est particulièrement significatif après la mort de Naël et le traitement qu'a eu le policier dans l'affaire de Naël, parce que en fait, on a bien vu, ils ont vu arriver, je pense, par plein de signaux, les révoltes qui allaient s'amorcer quelques heures plus tard, et très très vite ils ont réagi, en fait, dans les 48 heures, avec une mise en détention du flic à la santé, ce qui était, à mon souvenir, arrivé peut-être une fois sur 100, quoi. C'est-à-dire que, et donc là, on voit qu'il y a cette volonté en termes de communication politique, quoi, de dire non, il y a une réponse qui est aussi immédiate que dans l'autre situation. Bon, on voit bien que la réalité, c'est pas ça du tout, et qu'en fait, évidemment, le type de répression qui va s'abattre contre les jeunes révoltés, par rapport au type de répression qui va s'abattre contre un fonctionnaire de police, c'est incommensurable. C'est-à-dire qu'il est extrêmement rare d'aller en prison, mais il est encore plus rare, ne serait-ce que ne plus avoir l'usage de son arme, ou simplement d'être suspendu, ou en fait les gens au mieux sont mis au placard, et c'est des processus qui vont prendre des années et des années, et où les familles justement là vont devoir porter ça à bout de bras. Il s'agit pas de, là évidemment on peut pas parler de justice expéditive, là la justice a son temps et prend le temps de construire des affaires qui vont toujours se retrouver comme des affaires à charge contre les victimes et pas du tout contre les accusés qui sont les flics, quoi. Ce qui peut être considéré comme les crimes les plus graves, si on parle notamment de tirs à balles réelles sur la police, comme il y a eu quelques situations très exceptionnelles visiblement. Par contre, là, il faut s'attendre, effectivement, comme ça avait été le cas à Villiers-le-Bel, hein, à des procédures criminelles qui vont prendre beaucoup de temps, des procès d'assises. Hein, procès d'assises, vous êtes convoqué devant les assises entre 4 et 8 ans après les faits. Donc voilà, c'est des choses, effectivement, il faut les prendre en considération, en tout cas en parler dès maintenant, parce que profiter du fait que là les gens s'organisent parce que stupéfaits par les révoltes et qu'en fait ça puisse vraiment être utile à long terme, quoi, de pas isoler les gens par le temps, quoi. Et c'est l'arme la plus efficace de l'État ensuite pour la répression, c'est le temps et la dispersion et l'isolement.
Pendant ce confinement, au bout d'en 8 semaines, ils ont tué 12 jeunes. Yanis en faisait partie. Justice pour Yanis! Justice pour Yanis!
Je suis Valérie, la maman de Yanis, de Justice et Vérité pour Yanis. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2021, mon fils a eu un accident sur l'autoroute de la 1 à Saint-Denis, après avoir été pourchassé par la police. 21 mois après, personne ne m'a contacté, ni même convoqué, pour me dire dans quelles circonstances s'est passé l'accident. Moi et mes enfants sommes dans le flou et remettons en question la thèse présentée par la police le lendemain de l'accident dans la presse. Le 3 juin 2021, il nous a quitté des suites de ses blessures. Le 4 juin 2021, nous avons fait un repas commémoratif en hommage à Yanis. Ce jour de deuil a fini en guerre. La police est intervenue à 21h05 pendant que toutes les familles rentraient chez eux. Nous avons été victimes de tirs de LBD et de grenades de désencerclement. Noyés sous les gaz, mon fils de 17 ans à l'époque a eu la main écrasée car un policier a shooté dans une porte alors que sa main se trouvait là. Des jeunes du quartier mineurs et majeurs ont été arrêtés. Tous les habitants du quartier de la Plaine-Saint-Denis venus rendre hommage à Yanis le 4 juin 2021 ont été horrifiés par le comportement de la police et par ce qu'il s'est passé dans notre quartier. Une plainte a été déposée à l'IGPN concernant cette veillée. Concernant l'affaire de l'accident provoqué par la poursuite abusive, la justice m'a laissé sans réponse pendant 700 jours, soit presque 2 ans, des délais trop longs pour les victimes, pour les familles de victimes.
Nous, le collectif Stop Violence Policière à Saint-Denis, avons répondu présent à l'appel du réseau d'entraide Vérité et Justice à marcher aujourd'hui à Paris pour dénoncer les violences et les crimes d'État ainsi que l'impunité systémique qui les préserve. Les habitants de Saint-Denis subissent quotidiennement ces violences, les contrôles d'identité au faciès, les insultes, les humiliations, les amendes abusives, les coups, les déclarations mensongères, le refus de prendre en compte les plaintes au commissariat. À Saint-Denis, les cibles de la police sont nombreuses, surtout quand elles sont précaires. Que ce soit les sans-papiers qui marchent aujourd'hui avec nous, pour qui nous demandons la régularisation immédiate et sans condition. Que ce soit la jeunesse de nos quartiers qui doit subir la répression quasi quotidienne par les nombreuses brigades en place. Ou que ce soit les femmes et les personnes LGBTQIA+, victimes de violences homophobes et transphobes commises par la police dans les rues et les commissariats tunisiens. Les banlieues ont toujours été le laboratoire de la répression de l'État et du contrôle de sa population. Les banlieues ont toujours été le lieu d'expérimentation ou de recyclage des pires brigades, comme la Brave M, remake des voltigeurs qui ont tué Malik Oussekine en 1986. Tristement connue pour sa répression des gilets jaunes. Cette brave M, la voilà recyclée dans nos quartiers populaires, à Saint-Denis. Nous servirons encore de laboratoire avec les Jeux Olympiques de 2024, qui se dérouleront en grande partie dans notre ville, où la surveillance par les caméras dotées de l'intelligence artificielle sera mise en place, où le recours à l'armée est envisagé pour sécuriser l'événement face à nous, les sauvages. On parle en effet de pacifier la Seine-Saint-Denis, terme ô combien chargé au regard de l'histoire coloniale de la France. À Saint-Denis, les violences policières et les violences institutionnelles se sont aggravées depuis l'arrivée à la mairie de Mathieu Hanotin, qui a décidé d'armer sa police municipale, de créer une brigade canine, une brigade spéciale d'intervention, d'augmenter massivement les effectifs, de tripler les caméras de vidéosurveillance et de recourir à la vidéosurveillance algorithmique. En 2 ans, une 15aine de plaintes contre la police municipale a été déposée, témoignant des comportements abusifs, violents et insultants. Voici quelques exemples. Le 4 juin, comme vous le disait la maire de Yanis, la police a réprimé les participants à la veillée funéraire avec une rare violence. L'espace où se recueillaient la famille et les proches de Yanis a été subitement saturé de gaz lacrymogène. Des jeunes ont subi des clés d'étranglement, pourtant interdites, et des femmes enceintes ont été violentées. Des familles, des enfants ont été totalement traumatisées par cet événement. Le 4 février 2022, Mathieu Hanotin a arboré un gilet pare-balles siglé maire de Saint-Denis pour aller à la rencontre des habitants d'un quartier populaire. Un coup de communication obscène du jamais vu pour un élu local. Le 6 février 2022, à la gare de Saint-Denis, la police municipale a chargé avec des chiens sans sommation des familles fêtant la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Une enfant de 8 ans est tombée au sol et a perdu 2 dents. Alors qu'il disposait de 2 véhicules, la police municipale a refusé de transporter l'enfant à l'hôpital. Le même soir, la BAC est arrivée en renfort et a lancé une grenade lacrymogène sur le groupe rassemblé en solidarité avec l'enfant en criant « Messieurs, cadeau !» Le 5 avril 2022, la police municipale lâche un chien sur un jeune alors qu'il est à terre lors d'une violente interpellation au Framoisin. Le 28 mai 2022, soir de la Champions League devant le Stade de France, un policier municipal frappe d'un coup de pied un jeune après l'avoir balayé au sol. Bref, nous en avons des dizaines et des dizaines de témoignages. À Saint-Denis, nous sommes enserrés dans un triptyque répressif avec d'un côté la surmilitarisation coloniale et les violences racistes que nous subissons depuis des décennies. De l'autre, les millions d'euros dépensés chaque année par la municipalité pour accentuer le contrôle de sa population. Enfin, l'arrivée des Jeux Olympiques et de son arsenal technologique et sécuritaire dont nous serons les premiers cobayes et qui répond de façon à peine implicite à l'ambition de nettoyer les quartiers populaires. Pour résister ensemble, pour défendre nos droits et dénoncer les légitimités de ces violences d'État, nous avons créé ce collectif de lutte contre les violences policières à Saint-Denis. Nous aiderons les familles de victimes, les familles et les proches à se défendre et à faire valoir leurs droits. Nous créerons du lien avec les habitants de Saint-Denis afin de nous instruire de nos droits face aux abus de la police, de nous organiser collectivement pour combattre les politiques sécuritaires et répressives et de créer localement un rapport de force pour nous faire entendre et faire cesser les pratiques abusives. Nous devons nous organiser pour faire en sorte que leur violence ne reste pas impunie. Nous devons nous organiser parce que eux, ils s'organisent. Nous devons nous organiser parce que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes quand eux ont les institutions pour les protéger. Merci à tous.
Tu peux nous faire un petit bilan des comparutions immédiates auxquelles vous avez pu assister depuis cette dernière semaine.
Alors le travail de bilan, il va être fait de manière plus sérieuse là dans les jours qui viennent, et notamment on va essayer de pouvoir mettre en ligne tous les comptes rendus comme base, hein, même pour documenter un peu précisément quoi tout ça. On a aussi un regard assez aléatoire parce que évidemment, alors il faut se rendre compte d'un truc, hein, c'est qu'on nous parle de milliers d'interpellations. C'est hyper compliqué d'avoir les chiffres des mises en examen, donc des gens qui sont inculpés à la suite de leur garde à vue. Et ensuite, et comme le disait aussi Moretti là dans les chiffres, on sait qu'entre 30 et 50% des personnes qui ont été interpellées étaient mineures. Il parle même de 30% d'inculpés mineurs. Les mineurs, pour le coup, sont des audiences à huis clos, donc on n'y a pas accès du tout. Il y a une autre phase qui est hyper peu visibilisée, c'est ce qu'on appelle les procédures de reconnaissance préalable de culpabilité, où là, en fait, vous passez pas devant un juge, vous avez reconnu les faits, et donc c'est le procureur qui vous reçoit et qui aménage, mais vous êtes condamné à la fin, qui aménage une peine puisque vous êtes reconnu coupable. Mais pareil, c'est à huis clos. Donc ce qui reste, c'est les comparutions immédiates qui se tous les jours ou plusieurs fois par semaine dans les tribunaux. Là, il faut se rendre compte que là où on a pu être présent, alors à Bobigny, il y avait beaucoup d'avocats militants, d'avocats des Legal Team qui étaient présents, beaucoup de soutien, parfois presque un peu trop, parce que parfois les familles pouvaient plus rentrer, donc il a été demandé à certains soutiens de sortir quand même pour laisser rentrer les familles, évidemment, quoi. Donc, il y a eu une grosse mobilisation autour de Bobigny, mais il faut savoir qu'il y a eu aussi, évidemment, les tribunaux de Nanterre, les tribunaux d'Evry, Créteil, Versailles, Paris, évidemment. Je crois que j'en ai pas oublié, enfin j'en ai forcément oublié puisqu'en fait tous les tribunaux sont concernés visiblement sur le territoire, hein. Mais ça c'est ceux où on a pu aller. Et donc depuis samedi dernier, c'est difficile de donner des chiffres sur, ça sera pas du tout statistique quoi. En tout cas, ce qu'on peut voir, et c'est ce qu'on a pu voir dans toutes les cours, avec plus ou moins de violence dans les condamnations et de violence verbale des juges, des peines de prison ferme à l'appel quoi. Surtout des peines de prison ferme pour des très jeunes majeurs, des gens qui ont 18 ans, la plupart du temps scolarisés, et qui pour un recel, un vêtement récupéré d'un pillage, qui pour un jet de un incendie allumé dans une poubelle, vont prendre des 4 mois ferme avec mandat de dépôt, des 8 mois ferme, et des gens avec des qui avaient des casiers, là vont prendre parfois des peines très lourdes, hein, on a des peines qui sont allées de 12 à 18 mois ferme, pour des faits qui sont très peu constitués, hein, avec la plupart du temps, ce qu'on peut voir en fait dans le type de répression et les situations auxquelles on a été confrontés, c'est des vols et recels suite au pillage, puisqu'en fait les gens se font arrêter parfois sur la zone, parfois hors de la zone, mais avec les vêtements volés. Ensuite, il y a toutes évidemment les violences sur dépositaires de l'autorité publique, de toutes sortes que ce soit, avec armes, sans armes, mortier ou pas mortier. Ça, les tirs de mortier ayant pris une place médiatique importante, évidemment, quand il y avait des affaires de mortier, c'était très difficile, les juges cognaient systématiquement, quoi. Et également, à chaque fois, est rajoutée la participation à un groupement en vue de commettre des dégradations ou des violences volontaires sur les personnes. Ce qui est un chef d'accusation supplémentaire et qui permet donc d'aggraver la peine. Alors, tout le monde n'est pas parti au placard à la suite des condamnations. Il y a eu beaucoup de tiges, extrêmement peu de relax. Nous, ce qu'on a pu constater quand les avocats militants n'étaient pas là, notamment c'était le cas à Paris, c'est que des commis d'office et... En fait, dans un procès pénal, on peut commencer par soulever ce qu'on appelle les nullités, c'est-à-dire ce qui est en procédure, dans la procédure de garde à vue, d'interpellation, de mise en examen, toutes les erreurs qui auraient pu être commises par les flics et qui doivent permettre à certains endroits d'annuler toute la procédure. Sauf qu'en fait, les commis d'office, ils prennent jamais le temps de faire ça parce qu'ils considèrent qu'ils sont pas assez payés pour le faire et du coup, ils soulèvent jamais les nullités. Ce qui est hyper grave en fait, parce qu'il faut savoir que pour faire appel ensuite, si les nullités n'ont pas été soulevées au premier procès, ils ne pourront plus être soulevés en appel. Donc en fait, on se prive de la possibilité de faire sauter tout un tas de procès par incompétence des commis d'office, quoi. Donc ça, on a vu que jamais aucune nullité n'était soulevée. Ça allait toujours sur le fond et c'était toujours « oui, mon client a reconnu, mes rendez-vous compte, enfance malheureuse ». C'est-à-dire c'était des plaidoiries très morales, très peu juridiques et en fait, ce qui amenait à des condamnations systématiques. Et ce qui est terrible, hein, c'est que parfois pour des faits similaires, eh ben, on va avoir un stage de citoyenneté ou 18 mois ferme. Et ce que ça montre, c'est que l'arbitraire aussi, ça montre pas qu'il y a une justice qui serait plus clémente d'un côté ou plus répressive de l'autre. Ça montre l'arbitraire qu'a un juge, le pouvoir d'un juge sur la vie des gens, il est énorme pour que ces écarts puissent exister. C'est en fonction de comment vous aurez réagi, votre attitude au tribunal, votre capacité à vous soumettre à l'autorité du juge, comme un flic vous demande de vous soumettre à son autorité. Et ça, en fonction de la personnalité de la personne, du prisonnier, ça peut avoir des conséquences dramatiquement opposées, quoi.
Il y a un enjeu finalement politique dans la prise de parti du juge, dans la manière dont on applique cette justice.
Complètement, et on peut voir qu'il y a différentes manières de le politiser. Hein. On a parfois, moi j'ai été étonné de voir à Paris, une procureure qui était toujours qui se mettait toujours dans une posture très humaniste, de compréhension, un juge qui faisait parler beaucoup les gens, et avec des peines qui, pour samedi, ont été à une exception très faible par rapport aux faits reprochés, alors que les gens avaient reconnu les faits, en tout cas très faible. Une peine est toujours de trop, mais beaucoup de travaux d'intérêt généraux, stages de citoyenneté, du sursis, très 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 peu de mandats de dépôt, alors que ce qu'on a vu se déployer dans tous les autres tribunaux et puis à Paris à partir de lundi, là c'était de la prison ferme pour tout le monde. C'est souvent le rôle des procureurs, hein, quand ils demandent les réquisitions, hein, c'est-à-dire ce qu'ils proposent eux comme peine aux juges, ils mettent toujours en avant... le caractère exemplaire de la situation et de dire qu'il faut taper très fort pour répondre non pas à la situation d'une personne qui est devant eux, mais pour répondre à un besoin social de fermeté, d'ordre. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui sont pris en étau dans une machine judiciaire qui n'est plus qu'un outil politique d'écrasement, d'humiliation. Alors évidemment, elle va toujours se dédouaner en individualisant chaque situation, en donnant plus ou moins de prison en fonction de qui, de quoi. Mais en fait, ce qui se joue à ce moment-là, et c'est d'où la comparution immédiate, c'est de faire comprendre aux gens que, au vu de la situation dans tout le pays, ils ont pris part, en fait, ils ont une part de responsabilité entière dans l'embrasement d'un pays. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, c'est pas se dire que les crimes policiers ont une responsabilité entière dans l'embrasement d'un pays, c'est la participation à un mouvement spontané de révolte. Et donc en fait, on peut jamais s'y retrouver. C'est-à-dire qu'à aucun moment, la simple présence dans ces lieux où les révoltes s'exerçaient était un délit pour un juge. Donc en fait, à la fois ils veulent de la politisation, et à la fois ils le bloquent complètement en disant que cet espace n'était pas des espaces politiques, c'était des espaces d'ensauvagement, comme aime le dire l'extrême droite actuelle. Quoi. En tout cas, dans les comptes rendus qu'on a pu lire, notamment à Évry, hein, il y a des juges qui prenaient vraiment position, souvent plutôt les procureurs, en disant que, vous savez, monsieur, là c'est l'équilibre social que vous mettez en péril par vos actions, enfin qui étaient dans des discours hyper... de restauration de l'ordre, de l'équilibre social, tout ça, et des juges qui allaient franchement, quoi, en disant vous croyez que vous allez venger qui en faisant ça, et qui demandaient aux gens de quelle était leur position politique par rapport aux révoltes, avant de leur dire de toute façon si vous n'êtes pas content en France, rentrez dans votre pays. Enfin, c'est-à-dire que ouais, il y a des juges, mais après ça les juges choisissent leur manière de jouer ce jeu théâtral et de d'y prendre place, mais il y a des juges qui sont allés très très loin dans l'humiliation, très très loin dans demander aux gens de se soumettre à une politisation qu'ils assumaient complètement raciste, classiste, où on demande de se justifier, à la fois on demande aux gens de se politiser pour ensuite les discréditer dans leur discours politique, c'est-à-dire on leur demande vous n'étiez pas là pour rien, expliquez-nous pourquoi, et une fois qu'ils l'ont fait, on disqualifie tout ce qu'ils ont dit et on l'utilise à charge contre eux, quoi. Du coup, c'est un jeu hyper, hyper pervers, ce qui se joue en termes d'interaction politique, justement, par le discours entre les acteurs du procès. En vrai, c'est une boucherie, quoi. Alors, il y a une situation... Enfin, dans cette question de la politisation des enjeux, parce que, évidemment, il y a les postures des juges, il y a leur marge de manœuvre. Mais ce qu'on a vu, là, par exemple, et moi, ce qui est un truc assez regrettable, quoi, c'est que lundi, il y a eu une grève des greffiers, donc évidemment, on soutient les revendications des syndicats, et puis les greffiers sont maltraités dans les tribunaux, ça, évidemment, quoi. Sauf que d'avoir fait cette grève-là à ce moment-là, et je pense que les greffiers ne pouvaient pas l'ignorer, ça a fait que toutes les audiences, en tout cas pour ce qui concerne Paris, parce que la grève a été très suivie, ont dû être renvoyées. Et donc ça a été des renvois systématiques dans les trois chambres d'audience correctionnelle. Il y avait quand même des greffiers... Les audiences ont commencé très tard, des greffiers sont quand même venus d'autres chambres, mais pas de chambres pénales, donc ils n'étaient pas formés à la procédure. Et donc, il était demandé aux gens, et c'était assez terrible, le juge, systématiquement, quand les gens arrivaient, leur demandait « Est-ce que vous acceptez de comparaître aujourd'hui ou demander le renvoi ?» Les gens demandaient toujours de comparaître aujourd'hui, et là, il leur disait « Ah, ben par contre, il y a une grève des greffiers, donc en fait, on ne va pas vous juger aujourd'hui, donc il y aura quand même un renvoi. » Et il lui dit « Donc, on va discuter de ce qu'on va faire de vous en attendant de votre procès. » Et donc ça se jouait à chaque cas. Et en fait, 80, en ce qui concerne l'audience que j'ai suivie, à la 23e chambre, 95% des personnes, 90% des personnes sont parties en détention provisoire. Des gens qui n'avaient pas de casier, des gens... C'est-à-dire que cette grève des greffiers-là, elle a eu une conséquence qui... Ils ont envoyé systématiquement tout le monde en prison, au moins pour 15 jours. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on vous a envoyé en provisoire... Pour vous relaxer, un juge, il réfléchit à deux fois, parce que vous venez déjà de manger 2 semaines de cabane. J'ai dit qu'il faudrait au moins justifier le fait qu'on vous a pas enfermé arbitrairement, quoi. Et donc là, c'était d'une violence terrible, quoi.
Vous avez décidé que ces comparutions immédiates auxquelles vous avez assisté, c'était aussi important de les diffuser, de les mettre par écrit, de les retranscrire, parce qu'elles illustrent finalement un fonctionnement institutionnel. Nous, à la radio, on fait de la parole, de la voix. On va pas lire l'intégralité des comparutions, mais par contre, on s'est dit que ça pouvait avoir quand même une utilité, un intérêt de citer quelques-uns des échanges auxquels vous avez pu assister.
Je peux lire, je pense qu'il y a, sans être trop long, il y a des situations qui sont parfois malheureusement parlantes, quoi. Donc bah, je propose de vous lire là un compte-rendu hein, qui a été fait pour, on est, pour une comparution qui a eu lieu le 4 juillet à Bobigny en salle 4. Il s'agit donc d'un jeune homme au casier vierge et on va lui reprocher des dégradations en réunion par moyens dangereux. En gros, on est dans le contexte de dégradation et d'incendie suite à l'invasion du commissariat de Villepinte et il y aurait dans le dossier une vidéo où on voit la personne qui se retrouve en comparution en train de dégrader une poubelle. On est face à une juge qui est complètement humiliante et méprisante, qui va répéter à longueur d'audience que la personne a des problèmes intellectuels. Et elle va l'humilier sur le fait qu'il est en ESAT, hein, c'est-à-dire des établissements de travail spécialisés hein, pour personnes en situation de handicap, et lui fait une leçon de morale sur ce qu'elle, à son sens, est un métier utile à la société. Elle nous dit ce qui est utile, c'est être médecin, policier ou magistrat, par exemple. Elle l'humilie également sur ses parents, qui doivent avoir honte de lui, sur le fait qu'à son âge, il vit encore chez ses parents. Et elle lui demande « Pourquoi vous avez fait ça ?» par rapport à Naël. Sa réponse, oui. C'est quoi le rapport, elle lui demande. Le venger. Je comprends pas en quoi ça le venge. Ce qu'il s'est passé, c'est une injustice. Le seul moyen de se faire entendre, c'est la violence. Suite à ça, la procureure va requérir 12 mois, dont 6 mois de ferme et 6 mois de sursis simple, et avec une interdiction de détenir et porter une arme pendant 3 ans. Ça va être l'occasion de nouvelles leçons de morale, en expliquant que ces révoltes touchent aux bases fondamentales de l'État, et que les décisions de la justice dans ce contexte doivent faire régner l'ordre dans la société. Et dit que la personne ne comprend pas ce que pourrait comprendre un élève de 6e. Ensuite, c'est son avocate qui prend la parole. Elle est commise d'office. Finalement, elle ne sert pas à grand-chose. Elle va l'enfoncer. Oui, vous savez, mon client a des problèmes intellectuels. Hein. On comprend qu'il a même peut-être des problèmes psychologiques. Et elle survole complètement la question de la raison politique de l'action de la personne, alors que lui-même s'était expliqué là-dessus. Elle va regarder son téléphone pendant la réquisition du procureur. Elle se sent pas vraiment concernée par ce qui se passe. Et elle va demander un sursis probatoire. Donc elle demande quand même une condamnation et un suivi psychiatrique. Finalement, pour la juge, ce sera 6 mois ferme avec mandat de dépôt et interdiction de port et de détention d'armes pendant 3 ans. Elle lui dit au moment où elle le condamne, « Vu votre faiblesse intellectuelle, je vous donne une peine claire, facile à comprendre. »
Et pour les flics, de la confiture pour les porcs. Peut-on truander le fils comme une maison de 10? C'est pas que pour l'amour du riche, je suis sceptique. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on tient beaucoup de ces kidam. Admirateur de Tam Tam, puis employeur sans état d'âme. Ça nous fera toujours des points communs. Allez, une franche poignée de main, on oublie comme on a tous failli d'où l'on vient et on survit dans la niche du chien. Tout seul, apprends à fermer ta putain de gueule, même si le soir c'est bruyant. Dans certains endroits de la capitale, même enfoncé dans ma capuche, le regard fuyant. On n'est jamais à l'abri d'une balle de la police, comme du côté de Damary Lélis. Les frères ne rêvent que de rester entiers, n'allez pas vous imaginer autre chose. Connaissent la misère du travail au chantier, pendant 8 heures de suite avec une heure de pause. Alors écoute quand je te cause, à l'instinct du quotidien. Même si ces mots qui me viennent n'ébranleront jamais la volonté des anciens. Qui pour manger et boire ont connu les cours du soir, est-ce qu'il est le purgatoire de la clandestinité. De ce côté de la Méditerranée, ma musique porte cette empreinte qu'on le veuille ou non. Quand toute ma génération s'escarne sur le béton, c'est toute la différence. Elle est belle la France, et qui me parle de ceux qui n'ont pas eu cette chance. Entre les mains sales suffisamment tôt et déjà des rides sur la peau, ou alors les poches vides mais les reins solides pour tous les sales. Ils nous aiment comme le feu, dites-vous-le, on ne se fait plus d'illusions. Ils nous aiment comme le feu, et ouais dites-vous-le, je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton. Ils nous aiment comme le feu, dites-vous-le, on ne se fait plus d'illusions. Ils nous aiment comme le feu, et ouais dites-vous-le, je suis ce feu qui se déclare dans un champ de coton. Ils nous aiment comme le feu, on se défend comme on peut, comme on croit comme ça vient, comme on refuse un collier pour chien. Rien, je n'ai rien de plus à offrir, rien de mieux à écrire qu'un peu de prose trempée, d'alcool à brûler, qu'un peu de crash raclé dans le fond du gosier. On fauche bien les plaies pour le grain, nos grandes gueules le seront pour l'exemple. Et deux sales procédures pénales nous aboient dessus ensemble. Elles ont le goût de la merde fraîche, elles y ressemblent et sont bien drôles pour qu'on en tremble.
que veux-tu, malgré leur laisse au cul, on n'empêche pas les clébards à l'affût de pisser au pied des statues. Fiche-nous si tu veux, juge-nous c'est mieux, mais garde tes paniers de crabe, tes miettes de table ou tes strapons teints de sable. Il y a une charge instable au bout du câble, quand le présent se parfume d'une oraison future, quand il se résume à conjuguer plusieurs milliers de blessures parmi les peines ordures. On ne marchande pas, on frappe fort plusieurs fois jusqu'à se tenir complètement droit. Et ça n'étonnera que les sourds, les aveugles ou les muets vieux, ils nous aiment comme le feu.
Ils nous aiment comme le feu, dites-vous-le.
En vous diffusant l'interview d'une des personnes qui s'est rendue au tribunal afin de pouvoir témoigner de la complicité de l'outil judiciaire dans l'application des violences d'État. Mais avant cela, et pour montrer l'écart au niveau des traitements judiciaires, nous vous diffusons la prise de parole d'Aurélie Garand, réalisée lors de la marche contre les violences policières du 18 mars 2023 dernier.
Bonjour à tous, alors moi c'est Aurélie, je suis la sœur d'Angelo, Angelo Garand. Mon frère, il a été tué le 30 mars 2017. Le 30 mars 2017, c'est une antenne du GIGN qui vient chercher mon frère sous prétexte qu'il n'était pas retourné en prison après une journée de permission. On fait partie des gens du voyage, alors on nous envoie le GIGN à nous. Et là, c'est l'équipe du GIGN qui débarque. Mon frère, il se cache. Il se cache et ils étaient prêts à repartir. C'est merde, ils ne l'avaient même pas trouvé, Angelo. Et dans cette remise, Angelo, il a fait un petit bruit. Et là, on a 5 hommes du GIGN qui se précipitent et qui mettent 5 balles visées dans les organes vitaux de mon frère. Il y avait ma famille sur place. Ils n'ont rien vu, mais ils ont tout entendu. Il n'y a pas eu de sommation. Ils ont abattu mon frère comme un chien. C'est rien d'autre qu'une exécution le 30 mars 2017. Depuis, on se bat. Depuis, on lutte avec toutes les autres familles. On s'est constitué partie civile. On a demandé justice. Parce qu'aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, c'est parce qu'on veut la justice. Parce qu'on veut des procès. Parce qu'avoir un procès dans une affaire de meurtre, c'est un droit. Aujourd'hui, on n'est pas que là dans la rue pour pleurer nos morts. On est là pour avoir nos droits. La justice, c'est-à-dire que quand un homme tue un autre homme, il doit répondre de ses actes criminels. Viser les 5 organes vitaux de mon frère. Il y avait, Angelo, il avait des enfants. On s'est battu, on n'a pas eu justice, on a eu des non-lieux. La justice française nous a balayés en 3 ans. En 3 ans, on a passé les 3 étapes, en fait, jusqu'à la Cour de cassation. Ils ont appliqué l'article de loi aussi, L435, sous prétexte de légitime défense. Parce que soi-disant, Angelo aurait attaqué 5 hommes du GIGN avec un couteau. Angelo, il aurait pris des coups de taser. Mon frère, il serait resté debout à les malmener. En tout cas, nous, on sait la vérité. On n'a pas eu justice, mais aujourd'hui, je suis là. C'est pour Angelo, c'est pour toutes les victimes. C'est pour que toutes les autres victimes aient le droit d'avoir un procès, une vraie justice. Et je suis là pour Angelo, pour la vérité, pour dire la vérité. C'est une exécution. L'État tue. L'État français, c'est un État terroriste. C'est tout ce que c'est. Alors, on continue, on continuera, et nos enfants reprendront derrière. On n'oublie personne, et on continue pour tout le monde, pour la justice, pour la vérité, et pour continuer à vivre. Parce que imaginez-vous nos parents, ce qu'ils vivent. Nous, on est des sœurs aujourd'hui. Mais imaginez nos parents, ce qu'ils vivent. Imaginez les enfants de mon frère, ce qu'ils vivent. Ils ont tué mon frère, mais ils ont tué toute ma famille. Mais on va les étouffer à coups de vérité, comme ils ont étouffé plein de victimes aussi. Voilà. On n'oublie pas, on ne pardonne pas.
Angelo, on n'oublie pas, on pardonne pas.
De l'extrême droite, il est normalisé presque par ce genre de rendu de justice au final.
Oui, complètement. Bah, on voit qu'il n'y a aucune volonté de comprendre. Alors oui, les gens vont faire essayer de comprendre par des enquêtes de personnalité, un profil par rapport à un autre. Mais aucun des juges ne montre aucune compréhension par rapport au problème social qui fait qu'on en arrive là. C'est-à-dire qu'il ne reprend comme code ou comme moyen de comprendre ça ce qui sont les outils idéologiques aujourd'hui, oui, de l'extrême droite. Avec des remarques racistes, avec le fait de disqualifier par essence une partie de la population, quel que soit en fait le mode d'expression politique qu'elle utilise, quoi. Donc, et ça, cette disqualification a priori, oui, évidemment, c'est la matrice xénophobe qui évidemment, on peut dire extrême droite, mais en fait qui est diffuse dans la société à tout un tas de niveaux, et c'est effrayant. Et évidemment, on voit pas beaucoup de barrières chez les juges, ou chez les acteurs hein, des procès, pour pas reprendre cette codification-là ou cette lecture-là de la politique, ou cette lecture politique des révoltes, quoi.
On observe une articulation entre une violence policière, une violence judiciaire, et donc la violence de l'enfermement. Ça met en avant aussi de quelle manière est-ce que on considère la prison comme une solution à ces problèmes sociaux.
Comment on considère la prison comme une solution d'une, en fait, pas que à ces problèmes sociaux, surtout aux populations qui les subissent, quoi. C'est-à-dire que quand on voit, par exemple, si on prend ne serait-ce que le dernier mouvement des retraites, il y a eu un nombre d'interpellations assez gigantesque, quoi. Le nombre d'emprisonnements fermes a existé, et quand il existe, il y a souvent du soutien. C'est-à-dire que pour un prisonnier, c'est quelque chose d'exceptionnel. Là, ce qu'on voit, pour des faits qui, en fait, sont plutôt de même nature hein, que dans ce qu'il a pu se passer, juridiquement parlant, j'entends, hein, de ce qu'il a pu se passer dans les manifs, en fait, les gens vont en prison tout le temps. C'est-à-dire que c'est un traitement complètement différent. Où là, la prison, c'est pas le truc qui fait peur au bout, qui serait exceptionnel. C'est la norme. Et c'est la norme pas parce que c'est les émeutes, c'est la norme parce que c'est les populations les plus pauvres, la plupart issues de l'immigration, qui, de toute façon, ont déjà dans leur quotidien affaire avec cet environnement de la prison, pas qu'un fantasme éloigné qui doit juste faire peur, mais qui est là et on doit faire avec parce qu'il concerne les gens autour de nous, et qui là, en fait, est complètement intégré à ce processus. La question de mettre en prison, bah, c'est vraiment un déploiement systématique, quoi. On met en prison pour calmer les gens. On met en prison parce que la situation l'oblige. Enfin, c'est alors que non, ce qu'on, enfin, moi je trouve ça assez fou et c'est pour ça que ça doit être l'autre volet de cette action-là, quoi. C'est de continuer le soutien en prison pour les gens qui sont là pour, on espère, quelques jours et qui vont pouvoir ressortir à l'issue de leur procès, mais en fait pour les gens qui vont y être des mois. Et c'est pour ça que voilà, il y a aussi l'idée de faire des rassemblements. Là, il y a des appels à rassemblements qui ont été faits dans plusieurs prisons en France, au moins 4 ou 5. L'appel va sans doute s'élargir. Et un appel du coup qui a été fait pour la région parisienne pour se retrouver au RERB à 15h dimanche prochain, le 9 juillet, au parc de Sceaux, pour aller collectivement devant la prison pour faire un rassemblement de soutien avec tous les enfermés et les enfermés des révoltes.
Il n'y a donc qu'un seul type de prise de parole qui est accepté, qui serait celui des mouvements sociaux encadrés par les syndicats et la police. Néanmoins, celui-ci n'est pas écouté, puisque on peut être 4 millions dans la rue, cela ne change absolument rien. Et face à ça, quand la colère augmente et s'exprime d'une autre manière dans d'autres espaces que celui du mouvement social, à peine quelques mois plus tard, celle-ci non plus n'est pas audible, et d'ailleurs elle doit être mise au banc de la société, invisibilisée et discréditée à travers un outil médiatique et un outil judiciaire et carcéral. Alors, ces différents éléments mis en lien les uns avec les autres, c'est finalement une ambiance sécuritaire qui se révèle quelque part.
Je dirais s'actualise, se renforce, se consolide, et à chaque fois Évidemment, alors là, on a pu voir, hein, après le 1er mai qu'il y a eu, bam, ça arrive régulièrement, proposition de loi anti-casseurs, faire des interdictions administratives de manifestants pour les manifestants fichés, tout ça. Bon, c'est des vieux trucs hein, qui traînent, mais on voit que à chaque moment où effectivement la colère s'exprime et est moins contrôlable par l'État et par la police, ça va être un moment de renforcement de l'outil, des outils sécuritaires, ça va être un moment de renforcement des outils de renseignement. Là, on le voit, c'est la nouvelle étape, ça va être le contrôle des réseaux sociaux. C'est marrant parce que si on se rappelle 2011 quand même, la Tunisie, l'Égypte, quand on entendait l'État français parler de la censure des réseaux sociaux, quand les révoltes, parce que c'était un moyen effectivement de coordination hyper rapide et donc qui était plus imprévisible que les modes d'organisation plus anciens, quoi. Et ben là, 10 ans après, pas de galère. On limite l'accès aux réseaux sociaux si on voit que en fait c'est une... donc c'est des logiques de la consolidation de l'État répressif et sécuritaire qui et va falloir être vigilant ce qui se passe aussi à l'Assemblée nationale ces prochains mois et pas que à l'Assemblée nationale aussi dans les décrets, quoi. Mais on va monter certains crans aussi dans qui est l'autre biais de la répression administrative, c'est-à-dire tout ce qui concerne le renseignement et le contrôle a priori de mouvements de colère, de révolte ou de voilà.
Est-ce que tu as quelques chiffres sur l'enfermement de cette dernière semaine, sur le nombre de personnes qui ont été enfermées cette dernière semaine ou...
C'est hyper difficile à estimer, ça, il faudra un petit peu plus de temps. En tout cas, je pense qu'on peut parler de... Sur une semaine, à minima, je pense qu'on arrive à une centaine de personnes qui sont parties en prison, en ce qui concerne les tribunaux qu'on a couverts, encore une fois, quoi. Mais je pense qu'en île... Il faudrait voir. Je ne vais pas m'avancer trop dans les chiffres, mais en tout cas, ça va se compter par centaines. Il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi dans les types de répression et dans la répression judiciaire, c'est que notamment, alors c'est le cas quand il y a des flics hein, qui vont demander des dommages et intérêts pour arrondir leur fin de mois, ça c'est des procédés connus, vous en avez parlé à plusieurs reprises. Mais là, ce qui se joue avec les pillages, c'est que les grands magasins, notamment là c'était le cas à Paris de Nike, vont se porter partie civile. En fait, il y a très peu de gens qui vont être condamnés par rapport au nombre de gens qui ont participé à un pillage. Mais du coup, ceux qu'ils attrapent, en plus du procès pénal qu'ils vont manger, ils vont avoir ils ont une responsabilité civile par rapport à ce qui se passe. Et là, ce qu'on a vu, c'est que systématiquement, dès qu'une personne était prise avec des vêtements qui venaient d'un magasin, on lui reconnaissait l'entière responsabilité, notamment alors du vol. Ça veut dire que vous n'êtes pas responsable des 3 t-shirts que vous avez dans votre sac. Vous êtes responsable de l'ensemble des vols qui ont été faits dans le magasin. Soit responsable... si les faits le reconnaissent, de dégradation sur la vitrine. Pour Nike, l'avocat de la partie civile considérait qu'on n'était pas loin de 80-90 000 euros, peut-être un petit peu plus, peut-être une petite centaine de milliers d'euros. Ce qui fait que vous avez une, voire deux, voire trois personnes qui, là, notamment c'était le cas d'une jeune femme, a finalement pris 105 heures de tige et pas allée en prison. Par contre, un procès l'attend dans un an, au civil, et là, elle sera reconnue sans doute pleinement responsable, elle a déjà été reconnue par la justice pénale, donc en civil en fait ça va être juste le chiffrement du préjudice de la société, et là ça veut dire que vous pouvez commencer votre vie avec une dette de 90 000, 100, 150 000 euros, et voilà c'est l'horreur, et c'est important à prendre en compte aussi parce que c'est pas un détail quoi.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.